Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Un jour, quand je te perdrai, comment feras-tu pour t'endormir sans qu'au-dessus de toi je bruisse comme une couronne de tilleuls ? Blum.
Un jour, un réalisateur fantasque s'aperçoit que sa femme, qu'il croyait morte depuis 21 ans, 8 mois et 6 jours, revient dans sa vie pile au moment où ce presque clochard qui fait tout trop, alcoolique, polytoxicomane et insomniaque, allait s'offrir une seconde chance avec une astrophysicienne un peu nonne qui, elle, fait tout pas assez. Le réalisateur fantasque quitte son tournage et s'enferme dans un grenier à Roubaix. Il essaye de reconstruire son existence mais n'y parvient pas. Ismaël, c'est son nom, se perd au milieu de ses fantômes, celui de son épouse, celui de son frère agent secret, celui du film qu'il essaie d'écrire. Une apologie du désordre, c'est parfois comme cela que mon invité de ce soir, le cinéaste Arnaud Desplechin, résume et définit son dernier long-métrage en date, Les fantômes d'Ismaël, présenté hors compétition en ouverture du dernier festival de Cannes, avec dans les premiers rôles Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Le film vient d'apparaître en DVD ainsi qu'en VOD dans une version longue qui avait un peu loupé son rendez-vous avec le public depuis le mois de mai dernier. Occasion de revenir en détail sur ce millefeuille romanesque qui cite aussi bien Rainer Maria Rilke que Flannery O'Connor, où les mystérieuses étrangères que l'on rencontre de nuit dans les aéroports connaissent le nom du château d'Hamlet, où la comédie romantique déboulonne et oxygène le drame intime, où le récit d'espionnage peut devenir un terrain d'exploration psychanalytique, dans un grand geyser de fiction vivante et compressée à l'enthousiasme communicatif. L'occasion également, au cours de cette Nova Book Box, de s'égarer dans la bibliothèque mentale et labyrinthique de l'architecte des aventures de Paul Dédalus, où s'entrechoquent Philip Roth, Strindberg, Ibsen, la tragédie grecque ou les Indiens des plaines. Bonsoir Arnaud Desplechin.
Bonsoir.
Aux origines de votre film Les fantômes d'Ismaël, je crois qu'il y a un texte qui s'appelait La fuite, un bout d'histoire qui racontait comment un homme dans son grenier à Roubaix réinvente la vie d'un frère disparu. Vous aviez eu l'idée d'un début fragmenté comme dans Broadway d'Annie Rose de Woody Allen, où plusieurs témoins parlent de cet homme mystérieux, mais ça ne fait pas un film. Et puis un jour, vous avez pensé à la scène de la plage, au retour de Carlotta, cette femme qu'on croyait morte depuis 21 ans, à son échange avec Sylvia, la nouvelle femme d'Ismaël. Et une fois que vous avez compris que celui qui s'enfuit à Roubaix est celui qui retrouve sa femme portée disparue, en fait qu'il s'agit du même homme, vous vous êtes jeté dans ce que vous appelez votre fleuve narratif. D'où viennent-elles ces deux images ?
Vous parliez de Broadway d'Annie Rose, je sais que j'avais envie de visiter la comédie d'espionnage. Vous pouvez penser à des comédies d'espionnage de Hitchcock ou des films de divertissement. Et autour d'une figure un peu à la Bartleby, il y a un personnage, on ne sait pas si c'est un saint ou si c'est un imbécile. On ne sait pas si c'est un espion ou si c'est un naïf. On sait pas, un innocent, on ne peut pas savoir. Mais je savais très vite, en écrivant les premières scènes, que je n'avais pas envie de raconter toute cette histoire, mais des fragments de cette histoire. Donc m'est arrivée l'idée du réalisateur. Quand j'ai, évidemment, c'est un classique dans le cinéma, quand j'ai le producteur, tu sais, le héros de mon prochain film est réalisateur. Vous voyez, tout le monde fait grise mine parce qu'il y a une malédiction sur les films où c'est le réalisateur. Il ne faut pas faire ça, c'est interdit. Donc, je me suis dit, si c'est interdit, faisons-le. Et donc c'était cette première piste. Et là c'était l'image qui préexistait. Et cette image qui préexistait, que vous mentionniez sur cette femme disparue, sûrement elle vient de chez Philip Roth, de American Pastoral, mais le personnage est différent pourtant.
Vous pourriez le décrire un petit peu, le personnage du roman de Philip Roth ?
Du roman de Philip Roth, c'est merveilleux, c'est le narrateur, je crois que c'est Zuckerman qui est le narrateur, qui rencontre ce personnage qu'on appelle le Suédois, qui est gantier et à Newark. Et il le retrouve plus tard dans sa vie. Et ce type avait une fille qui a disparu parce qu'elle faisait partie des Weathermen, c'est-à-dire des gens qui faisaient ces actions terroristes dans les années fin des années 60, début des années 70, contre la guerre du Vietnam. Et sa fille, dans un attentat terroriste assez pathétique, a tué 3 ou 4 personnes en mettant une bombe dans une poste. Et cette fille a disparu pendant 20 ans. Et le père a retrouvé sa fille au milieu du roman. Et Zuckerman reçoit la confession du Suédois qui donc lui raconte toute cette histoire. Et c'est ce truc de... Ça me rappelait aussi un personnage aussi de Philip Roth dans Shabbat Theater, dans le théâtre de Shabbat. Shabbat, qui est un homme qui a beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de fous, et il y a une de ces femmes qui a compté beaucoup pour lui quand il était marionnettiste, a disparu. Elle n'est pas morte, elle n'est pas vivante, elle a disparu, elle disparaît comme ça arrive beaucoup en France, aux États-Unis, dans tous les pays. Il y a des gens qui disparaissent. Et donc il y a cette impossibilité d'enterrer quelqu'un, l'impossibilité de faire son deuil. Et là, cette impossibilité de faire le deuil, c'est ça qui crée mon héros, Ismaël. J'ai besoin d'être entouré de fiction. Je pense à des amis chers, comme je suis à Nova, je peux le mentionner, par exemple Ken Jones, qui était un grand critique de cinéma, qui dirige le Lincoln Center et qui avait fait un film que peut-être certains de vous auront vu, qui était le Hitchcock Book, le film sur Hitchcock Truffaut. Et alors lui, il lit que de la poésie, j'en lis un peu, et de la philo. Et il lit que ça, ou des essais. Mais il ne lit jamais de fiction. Alors moi, j'ai besoin, quand j'écris, d'être baigné de fiction. Je saurais pas vous dire des titres. Je lis n'importe quel roman dont on me dit c'est un bon roman. Je me dis ok, je me jette dessus. J'ai besoin d'être dans. J'aime bien ce truc de raconter des histoires.
Quel est le sens de ce bref poème de Rilke cité en ouverture de l'émission dans le film au moment où Marion Cotillard le prononce?
C'est assez déchirant parce que. C'est super drôle d'abord parce qu'il y a, une partie des personnages qui aiment bien lire. Sylvia, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, on voit, elle lit Flannery O'Connor. Bon, voilà, elle est calée, elle est scientifique, elle est littéraire, elle est tout ce que vous voulez, c'est la femme parfaite. Et elle se retrouve sur une plage avec Marion Cotillard. Et Marion Cotillard, elle lui dit, moi, j'aime pas lire. J'aime pas les livres.
C'est le désespoir de son père, d'ailleurs.
Voilà, c'était le désespoir de mon père. J'aime pas le livre, j'aime pas ça. Et mon père me récitait un poème. Et alors, je me souviens pas, ça va faire snob, mais c'est pas un snob, c'est parce que je suis fatigué. Je me souviens plus du poème en français, je m'en souviens en allemand. Einmal, wenn ich dich verliere, wirst du schlafen können ohne dass ich mich verflüstere über dir, like eine Lindenkrone, mich verflüstere über dir.
Et, Danke schön.
C'est ce père qui, un jour, quand je te perdrai, c'est un amant qui est aux côtés de sa compagne. Un jour, quand je te perdrai, mais comment feras-tu pour t'endormir sans qu'au-dessus de toi, je me penche comme une couronne de tilleuls ? Et déjà, comme si le père, dans le poème qu'il apprenait à la petite fille, il savait qu'un jour, il la perdrait. Vous voyez, je pense au poème de René Char, Les chemins de l'écolière, je crois, ça s'appelle. Ma fille, je tremble. Quand le père sait qu'un jour, il perdra sa fille. Alors ça, ce père, qui est joué par Laszlo Szabo, qui sait qu'un jour, il perdra sa fille, mais il ne savait pas qu'il la perdrait de cette façon-là. Et quand il la retrouve, à la fin du film, ça le tue.
Comment êtes-vous tombé sur ce poème ?
Le Rilke ?
Oui.
Au lycée, au collège, je sais pas. C'est des bouts de trucs que je lis, c'est des bouts de trucs que je lis.
Et que vous conservez, comment ça s'organise ? Est-ce qu'il y a une très grande bibliothèque, vous repiochez dedans parce que vous avez des souvenirs précis, à la fois du côté de la poésie, du théâtre, de la fiction, des essais ?
Oui, j'ai une bibliothèque qui est assez fournie. Je m'y perds un peu, elle n'est pas assez rangée. Je me le reproche, j'en ai perdu, j'ai prêté une fois mon appartement à un tournage, ce qu'il ne faut jamais faire, ce que je conseille à tous de dire, même si on vous le loue une fortune, il faut refuser, parce qu'on m'a volé des livres dans la bibliothèque que je n'ai jamais retrouvés. Et puis, ce n'est pas la même chose quand vous les rachetez, vous savez, le livre, il est marqué par votre lecture, donc vous retrouvez les pages dont vous vous souvenez, tandis que quand ce n'est plus votre exemplaire, vous ne retrouvez pas les pages. Et voilà, mais j'ai pas mal de livres qui traînent chez moi. Alors en rayon poésie, j'ai quelques poèmes de Rilke, mais j'en ai peu, je n'ai pas celui-là. Celui-là, je m'en souvenais du lycée. Et c'est une amie qui me l'avait lu quand j'étais petit. Et voilà, ça m'est toujours resté.
Sur la plage de Noirmoutier, quand les deux femmes d'Ismaël essaient de faire un peu plus ample connaissance, on peut voir que le personnage de Charlotte Gainsbourg lit une édition de poche de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ce livre-là dans ses mains, est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que bien sûr tout fait sens, puisque dans Crime et Châtiment, c'est l'amour de Sonia qui finit par sauver l'assassin Raskolnikov, qui lui permet de tenir le coup, qui lui offre sa rédemption. Et dans votre film, Sylvia fait à peu près la même chose. Elle veut retirer le masque d'Ismaël et fait de lui un prince à 50 ans passés.
Alors ça, c'est un heureux hasard. Vous voyez, de la même manière que je tourne en décor naturel, toujours et jamais en studio, pour pouvoir accueillir ce qui est imprévu. Alors il se trouve que Charlotte Gainsbourg était en train de lire Crime et Châtiment, et donc elle lisait. Alors je ne voulais pas l'embêter en lui remettant, parce que pour moi, elle ne lisait que Flannery O'Connor pendant tout le film. Mais je n'allais pas lui refourguer encore mon Flannery O'Connor, alors qu'elle était en train de dire, vous voyez, elle passait un moment, il faisait froid ce jour-là qu'on a tourné sur la plage, c'était le tout début octobre, donc il ne faisait pas si chaud que ça, donc j'avais très peur d'embêter les filles. Et alors du coup, je lui ai dit, non, mais tu peux garder le livre que tu es en train de lire. Et donc c'était celui-là, et le hasard a été heureux, puisqu'effectivement, Raskolnikov se retrouve sauvé par la fille perdue qui vient le retrouver en déportation à la fin du livre.
Plus loin dans le film, vous l'avez dit il y a quelques instants, mais c'est aussi plutôt dans sa vie, on la voit lire Flannery O'Connor. Alors, Mary Flannery O'Connor, pour ceux qui l'ignorent, c'est une femme. Pourquoi justement le personnage de Sylvia lit cette écrivaine du sud des États-Unis en particulier?
Et Flannery O'Connor, il y avait un côté austère qui arrivait à bien carrer. Et puis un côté douloureux aussi qui arrivait. Peut-être ça doit être ça, parce que dans le film, le personnage de Sylvia on lui dit, mais pourquoi tu restes à côté de la vie? Et elle répond avec crânement, les hommes mariés. Et puis par ailleurs, elle a ce frère handicapé
qui est comme un enfant pour elle.
Qui était comme un enfant pour elle. Alors peut-être ce frère de l'opinion vient de cette douleur du handicap, qui est une douleur visité au cours de sa vie, ou des thèmes qu'elle a pu explorer d'une manière romanesque. Donc peut-être ça vient de là.
Pour ceux qui ne connaissent pas ses livres, quel type de sujet on y trouve?
Ah, c'est des personnages très tourmentés, c'est les handicaps, c'est la violence, c'est la différence des sexes, c'est la différence des races, c'est la question du handicap, c'est la souffrance de l'enfant, c'est la difficulté d'être une femme, c'est l'impossibilité d'aimer, c'est des vraiment extrêmement tourmentés. C'est des gens qui se tourmentent énormément avec la religion, qui vivent la religion dans un très très grand tourment, c'est des images qui nous viennent.
Justifie probablement que ce soit l'un des écrivains préférés du chanteur Nick Cave.
Ah bon?
Ouais.
Ah, classe.
Nova Bookbox, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. To intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And
ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms.
Je suis toujours en compagnie du cinéaste Arnaud Desplechin. Dans les bonus DVD des Fantômes d'Ismaël, vous vous dites hyper admiratif de Bergman et de Lars von Trier parce qu'ils arrivent à se débarrasser de leur personnage masculin. Vous n'arrivez pas, vous, encore à le faire. Vous avez encore besoin d'un personnage masculin, d'un fétu balayé par les événements. Ça vous aide à inventer. Vous dites aussi que ce serait plus fort avec juste des filles parce que le cinéma sert à ça, à montrer des femmes parce que c'est un art moderne et parce que la question moderne, qu'on le veuille ou non, passe par l'émancipation nécessaire et toujours reconduite des femmes. C'est la question du XXe siècle pour vous, l'aspiration à la liberté, et c'est une question plus que jamais d'actualité.
Oui, c'est entièrement piqué à un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, qui a écrit plusieurs livres, le livre le plus connu étant les Comédies du remariage, qui ont été republiés dans une très jolie édition chez Vrin il y a 6 mois. Et le livre a été épuisé, maintenant on peut se le procurer. Il a écrit plein de livres. Et c'est cette idée que le cinéma a été contemporain d'une émancipation. Il y a eu beaucoup de temps à l'émancipation féminine, mais à l'émancipation féminine moderne, celle qui commence avec Ibsen. Et que donc le cinéma, de par sa naissance, de la même manière que le cinéma, par exemple, est né dans les cirques, dans les foires, sera toujours un art forain. Et bien de la même manière que le cinéma est né en même temps que le mouvement de l'émancipation des femmes, le cinéma, et principalement, pas que le cinéma américain, le cinéma suédois aussi, et le cinéma français, non, le cinéma vraiment mondial, a enregistré cette émancipation. Et moi, je ne vis pas cette émancipation, vous parliez d'aujourd'hui, de MeToo, etc. Je ne vis pas cette émancipation comme quelque chose qu'il faille obtenir, mais comme quelque chose qui est toujours reconduit. C'est-à-dire que chaque femme, à chaque instant de sa vie, toujours s'émancipe. Et toujours l'émancipation ne suffit jamais assez. Il faut toujours revenir dessus. Et que le cinéma est le parfait sismographe de ça. Le théâtre l'a été très peu. Le théâtre sous Ibsen a été ce sismographe. Et c'est ça qui autorise Stanley Cavell à dire l'ancêtre du cinéma Lumière, c'est Ibsen, c'est la maison de poupée. C'est tout d'un coup une fille qui claque la porte, qui laisse ses enfants et son mari et qui dit « je m'invente une vie ». Voilà. Et c'est la naissance du cinéma. Le cinéma aura été contemporain et donc le sera toujours et accompagnera toujours ça. Et alors c'est pour ça, je parlais de Bergman, je pensais évidemment, parce que c'est dans Les Fantômes d'Ismaël, ça se passe sur une île, où il y a bien des scènes où j'arrive à me débarrasser de Mathieu Amalric et je suis que avec Cotillard et Gainsbourg. Et donc là, c'était le paradis. J'aime énormément Mathieu, vous le savez, mais enfin, c'était quand même une forme de paradis. Et alors, je pensais aux personnages de Bergman qui arrivent à faire des films en se débarrassant de tout personnage masculin. Et c'est vrai que moi, pour inventer mes personnages féminins, je suis encore obligé, peut-être un jour y arriverai-je, peut-être n'y arriverai-je jamais, et je passerai toujours par ce détour masculin pour inventer des personnages de femmes.
Qui sont parmi vos écrivains favoris, morts ou vivants, peu importe le genre, si j'ose dire, à double titre, ceux qui ont su créer des personnages féminins grandioses?
Ah la liste, elle est... qui ont créé des personnages féminins grandioses? Je sais pas, j'ai lu cette année un livre de Amos Oz où il y a des personnages féminins tellement bien. C'est cet étudiant qui arrive à Jérusalem, sa famille n'habite pas à Jérusalem, et puis qui habite avec une femme un peu plus âgée. Il tombe amoureux de cette femme et dont le mari est mort pendant la guerre. Et c'est un personnage de veuve et très libre sexuellement et en même temps qui reste sur elle-même et tout ça. C'est un personnage de femme absolument éblouissant. Mais la première question, vous me dites ça, évidemment, je pense à Tolstoï, je pense à une phrase comme ça de quelqu'un qui peut être parfois décrié, qui est Finkielkraut, qui disait Philip Roth n'aura jamais le prix Nobel parce qu'il a inventé Maureen Tarnopol, et qui est le personnage maudit de femme absolument terrifiante dans Ma vie d'homme, qui est un personnage qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une femme blessée. C'est une femme blessée et elle ne cesse
de vouloir faire rendre des comptes à son mari. Mais rendre des comptes sur une blessure infinie, vous voyez, on est tous blessés. C'est un fait de naissance, bien sûr. Mais elle a une espèce de dol qu'elle désire récupérer. Et c'est l'être aimé à qui elle demande de récupérer ce dol comme ça.
C'est de dol,
de cette souffrance, oui. De cette douleur. Et alors, cette douleur de vivre, elle demande à son mari de la réparer. Mais c'est pas possible. C'est pas quelque chose qui se demande dans l'amour. Mais elle le demande. Elle le demande avec rage comme ça. Et elle le demande jusqu'à la mort. Et ça en fait un personnage féminin immense. Mais Philippe Roth aura créé énormément de personnages. C'est un écrivain, c'est drôle, qui est souvent considéré comme un peu misogyne. Parce que ces personnages peuvent l'être, ou ces personnages sont parfois très très sexués. On parlait de Shabbat, qui est un personnage comme ça, de séducteur.
Ou de Portnoy et son complexe.
Etc. Et pourtant, ça aura été un immense inventeur de personnages féminins. Il aura inventé vraiment des personnages féminins merveilleux. Donc le premier nom, peut-être parce que c'est l'écrivain que je connais le mieux. Vous voyez, les deux premiers que je dirais, ce serait Tolstoï Mais vous voyez, je n'ai pas dit Stendhal, c'est ridicule, alors que vous voyez, j'écrirai jamais si je n'ai pas lu Stendhal. Mais...
Et chez les autrices
vous dites autrices, chez les écrivains femmes. Vous allez me piéger. Je sais que Jane Austen, hein, vous voyez, sous un mode qui peut paraître discret, il y a un tragique dans les personnages de Jane Austen. Je sais que ça aura été une lecture aussi, je vous disais, les écrivains sans lesquels moi, je n'oserais pas écrire pour le cinéma. Jane Austen, pour moi, ça a été fondamental. Parce qu'il y avait peut-être parce que je n'arrivais pas à accrocher au roman français et que j'ai préféré le roman anglo-saxon. Et quand j'ai découvert Jane Austen, j'ai découvert un continent et avec des aspects, bien que les livres se présentent comme légers, avec des aspects beaucoup plus douloureux que ça. Je viens de lire le prochain livre de Geneviève Brisac, dont le titre m'échappe, qui est une écrivain que je lis très régulièrement. C'est un portrait de sa mère, c'est un portrait de mère comme ça. Et c'est un personnage absolu. La fille et la mère sont dans un rapport absolument bouleversant. Et à mon avis, c'est un des meilleurs livres de Geneviève Brisac. Mais je la connais dans la vie. Donc c'est la honte de le dire à la radio. Mais enfin, je l'ai eu comme ça, on me l'a passé. C'est pas elle qui me l'a passé, on me l'a passé. Je l'ai lu et j'étais sur le cul. Vous parliez de romans, mais voyez, si je dis pas l'importance que Dickinson a eu dans ma vie, ce serait juste vous mentir. Donc vous voyez, c'est le premier écrivain auquel j'ai pensé, mais vous me parliez de roman, alors je vous ai répondu avec Jane Austen. Mais Dickinson aura eu beaucoup plus d'importance pour moi dans ma vie que comme poète et comme philosophe et comme théologienne que Jane Austen.
Par quels aspects ?
Je sais, tout me bouleverse en elle, tout me bouleverse, sa vie, son œuvre, chacun de ses poèmes, là ça me revient pas, j'en ai appris beaucoup par cœur. C'est la fin de Roi Zéren, c'est un poème de Dickinson qui termine Roi Zéren, qui est un film qui me touche beaucoup et je crois que j'ai donné beaucoup de moi, et c'est ça me plaisait que ce soit Dickinson qui conclut le film. Mais ce rapport, on parlait de Flannery O'Connor qui est un écrivain très douloureux et Dieu sait si elle ne l'a pas eu facile, Dickinson. Et pourtant, il y a une joie chez elle qui est invraisemblable.
L'eau, c'est la soif qui nous la prend. La terre, une fois les mers traversées. L'extase, les agonies souffertes. La paix, les guerres racontées. L'amour, c'est un mémorial. Je n'ai plus soif. J'ai les deux pieds sur la terre. Maintenant, je suis enfin en paix.
Je suis toujours en compagnie du cinéaste Arnaud Desplechin. De mon point de vue d'homme, de spectateur homme, j'ai l'impression qu'au fil de votre filmographie, vous avez su écrire, vous aussi, de grands personnages féminins complexes. Celui de Catherine Deneuve dans Un conte de Noël, celui d'Emmanuel De Vos dans Roi Zéren, celui d'Esther... Dans Esther Kahn, mais également le personnage d'Esther dans Comment je me suis disputé et dans Trois souvenirs de ma jeunesse. Comment écrit-on pour un genre qui n'est pas le sien ? C'est très difficile comme question.
C'est difficile, mais moi je la règle avec Je suis confus de dire ça devant vous. Je la règle avec une certaine forme de négligence. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question du genre. Vous voyez, je sais faire une chose au cinéma. Pas comme fabricant de film, hein, comme spectateur. Je sais m'identifier. C'est je regarde quelqu'un sur un écran, je regarde un visage, je suis lui. Voilà. Je n'ai pas une vision intellectuelle des films, je n'ai pas une vision analytique des films et de ça. J'adore hein, cette vision analytique, je suis l'élève de Jean Doucher et tout ça, donc j'adore plus tard analyser les films. Mais quand je regarde, je suis d'abord fasciné parce que je sais m'identifier. Et je crois que c'est ça que je fabrique sur les films, c'est que je m'identifie. Donc, si vous voulez, quand on m'a demandé, je vous répondrai, c'est pas... Vous me parliez par rapport à l'écriture, je répondrai plus tard, mais on me demandait une fois, mais pourquoi vous avez cette fascination comme ça pour Charles Gainsbourg et depuis l'Effronté. Vous voyez, c'est parce que j'ai eu le même choc avec Gainsbourg que celui que j'ai eu avec Jean-Pierre Léo. C'est quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est moi. Vous voyez, quand je vois, par exemple, je ne sais pas moi, Jean Gabin vieux, je me dis, c'est pas moi. Je vois Louis de Funès, c'est pas moi. Je vois, c'est pour moi, de Belmondo, c'est pas moi. Je vois Jean-Pierre Léo, c'est moi. Il parle pour moi, il parle pour ma timidité, il parle pour ma difficulté à vivre, il parle pour, etc. La première fois que j'ai vu Gainsbourg, je me dis, mais c'est moi, cette difficulté à vivre, à être, etc. Et donc j'ai une forme d'identité, je m'identifie maladivement. Et quand je ne peux pas dire que j'écrive mes personnages masculins différemment de mes personnages féminins. J'essaie de m'identifier, j'essaie qu'elles me surprennent. J'essaie peut-être aussi de vous parliez de... C'est un personnage qui me touche beaucoup, le personnage de Nora, joué par De Vos dans Rois et Reines. J'essaie de ne pas être bien pensant avec mes personnages féminins. C'est-à-dire, j'essaie de cogner dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, pour aller vraiment taper sur le personnage et essayer de ne pas avoir d'angélisme par rapport à mes personnages féminins. Donc, j'essaie de les confronter. Les confronter à leurs limites. Je me souviens, il y avait un paradoxe une fois que j'avais développé. Il m'a poursuivi, hélas, vous voyez, dans Les Inrecuptibles. Je disais, c'était sur comment je me suis disputé. Je disais, il y a trois personnages féminins. Il y a Esther, elle est bête. Il y a Sylvia, elle est amère. Et il y a Valérie, elle est folle. Et du coup, c'était un truc agressif, vous voyez, par rapport aux personnages féminins. Mais c'est vrai que j'avais un but en écrivant. C'est qu'il n'y a pas de forme plus sublime d'intelligence que la soi-disant bêtise d'Esther. Il n'y a pas de forme plus raisonnable et malicieuse que la soi-disant folie de Valérie. Et il n'y a pas de plus extrême générosité que celle de Sylvia. Vous voyez, c'est de prendre le personnage en n'ayant pas peur de le bousculer. Si j'essaie de bousculer mes personnages masculins, j'essaye à l'écriture de bousculer mes personnages féminins. Je dis bien à l'écriture parce que pendant le tournage, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Parce que vous voyez, le cinéma, là aussi, c'est une différence avec le théâtre. Le cinéma, c'est un art qui est fait pour les femmes. C'est profondément. C'est très difficile d'être un homme acteur, vous savez.
Ah bon ?
Oh, bien sûr, c'est très difficile.
Pour quelle raison ?
Ben, vous prenez 100 femmes dans la rue, vous les filmez comme ça, vous dites bonjour, taisez-vous, regardez à gauche, à droite. Vous prenez 100 femmes, vous regardez les rushs, il y en a 80 qui sont intéressantes. Vous prenez 100 hommes dans la rue, vous les filmez pour un casting sauvage, vous voyez, pour une figuration. Sur les 100 hommes, il y en a 3 qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contrat magique entre la caméra et les femmes qui fait... Alors moi, je prête au cinéma le fait de pouvoir montrer ce qu'il y a de héroïque chez une femme, de ce qu'il y a de plus grand que la vie. Et je crois qu'un grand acteur du cinéma, c'est pas pareil qu'un grand acteur de théâtre, c'est quelqu'un qui sait, qui accepte quelque chose de son propre ridicule. Et qui sait que bah, au cinéma, il aura l'air un peu nigaud, quoi. Et que c'est adorable. Vous voyez, je peux penser à John Wayne, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Je pense son premier film avec John Ford, comme ça, il arrête la diligence. Et il est beau comme une fille, il est un peu nigaud, il est parfait.
Lui qui s'appelle Marion, en plus, dans la réalité.
Oui. Je regardais cette fille et je pensais que ça, elle en culotte qui dansait, c'était l'image la plus exacte de l'Esprit Saint.
C'est beau que les femmes incarnent cette gloire au cinéma et que les hommes acceptent que ce soit une manière plus modeste d'apparaître au cinéma. En tout cas, c'est ça qui me plaît, moi, dans les films.
Pourriez-vous citer une chanson d'une artiste féminine plutôt représentative de votre idée de la modernité que vous auriez envie d'écouter là, tout de suite ?
Là, tout de suite, Ring a Ring a Roses de Charlotte Gainsbourg, qui est, évidemment, je prononce très très mal le titre, mais c'est parce que d'un coup, elle prend la voix, elle prend la parole. Ça me plaît aussi parce qu'elle a écrit les lyrics, parce que les lyrics sont moitié en français, moitié en anglais. Et il y a une prise de parole qui est assez bouleversante. Et puis la chanson a une ambiguïté parce qu'on ne sait pas si c'est le deuil d'un amour ou le deuil, un deuil familial, on ne sait pas quel deuil, si c'est juste un amour perdu ou la mort qui passe par là. C'est une chanson qui traverse.
Le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je suis toujours en compagnie du cinéaste Arnaud Desplechin pour évoquer la version longue de son film Les Fantômes d'Ismaël, enfin disponible en DVD ainsi qu'en VOD, c'est-à-dire pour tous. Comme votre film précédent, Trois souvenirs de ma jeunesse, Les Fantômes d'Ismaël s'aventure du côté de la comédie d'espionnage, mais alors toujours avec donc de l'humour, un sourire en coin à l'image du jeu de Louis Garrel qui interprète le frère agent secret fantasmé. Vous lisez beaucoup de romans d'espionnage ?
J'en ai lu énormément.
Qui, par exemple ?
Surtout John le Carré, lui, il a changé ma vie. Et, mais vraiment, enfin, la trilogie de Smiley, après, j'ai tout lu. Évidemment, après la chute du mur, ce qu'il écrit est plus compliqué. Les derniers romans, même le texte autobiographique est pas mal. Le dernier livre de John le Carré.
Le tunnel aux pigeons, ses mémoires en quelque sorte.
Oui, ses mémoires sont très bien. Mais c'est vrai que sa grande époque, c'est tout d'un coup de montrer que la différence entre l'Est et l'Ouest, il y avait un vertige, quoi, comme ça. C'est vraiment des livres qui m'ont fort marqué. Little m'a marqué beaucoup. Il y a un livre d'Ismaël et ses fantômes, ça fait penser à un film. C'est Arlotte et ses fantômes. C'était un gros livre d'espionnage de Norman Mailer, qui n'est pas très connu. Qui a un livre qui fait, vous voyez, les pavés américains, quoi, c'est les livres de 1000 pages, et qui est sur toute l'histoire de la baie des cochons, enfin la fin de la guerre froide, enfin le début de la guerre froide avec l'installation à Berlin, et qui traîne jusqu'à la baie des cochons et tout ça, et qui est un livre absolument éblouissant de Miller, et dont je me suis servi pour inventer mon titre. Il y a aussi. Excusez-moi, le Quatuor de Los Angeles, il y a le
James Ellroy.
Il y a son gros livre d'espionnage sur la baie des cochons, là encore, qui a été un fort, fort livre qui m'a beaucoup nourri. Mais ça aura été vraiment ces quatre-là, Ellroy, le gros livre de Norman Mailer, les Little que j'ai lu avec la compagnie, c'est un très, très grand livre, très, très grand livre. Et voilà, c'est la trilogie de Smiley qui me laisse encore pantois.
Je le carré. Parmi vos adaptations de livres à l'écran, alors il y a eu des choix très originaux. Je pense par exemple à ce livre que j'ai sous les yeux, Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Ouais. C'est un ouvrage de l'anthropologue franco-américain Georges Devereux, publié en 1951. C'est un pionnier de l'ethno-psychanalyse. Le livre condense 80 séances avec un Indien Blackfoot déraciné et alcoolique. Ça deviendra chez vous Jimmy P. en 2013 avec Benicio del Toro. Tout peut faire sujet, c'est-à-dire que l'étincelle peut venir de n'importe quelle lecture, y compris des choses qui d'emblée ne sont pas cinématographiques.
Ben moi, ce qui me plaisait énormément, ce qui m'a plu, ce qui m'a bouleversé dans le livre commence par un long prologue de Devereux sur ce que c'est l'ethnopsychanalyse ou l'ethnopsychiatrie, et qui est assez obscur, hein, auquel il y a bien des pages où je ne comprends rien, et puis j'essaie de le suivre, à la, etc. Mais dans l'histoire, et c'était ce qui me plaisait, que je trouve extrêmement cinématographique, pour je le raconte pour vos auditeurs, qui est très très humble, si vous voulez, c'est que vous dites franco-américain. C'était un hongaro, allemand, franco, américano. C'était un menteur, un voleur, un escroc. C'était un type qui avait un parcours totalement atypique et qui arrive aux États-Unis. Il n'a pas de travail. Il se retrouve dans ce qui aura été le centre de la psychiatrie mondiale de l'époque, qui était Topeka, qui était un hôpital militaire où on faisait la psychiatrie la plus moderne et la psychanalyse la plus moderne. Et donc, l'administration très réticente devant ce type, qui n'avait pas vraiment de lettre de recommandation, lui donne un seul patient. Alors, comme il s'embêtait à mourir, vous voyez, à Topeka, qui était une toute petite ville au fin fond du Kansas, il ne sait pas quoi faire. Donc, du coup, il retranscrit toutes les séances. Et donc, c'est dans l'histoire de la psychanalyse, c'est la seule psychanalyse qu'on ait. On est une psychanalyse du premier bonjour jusqu'au dernier au revoir. Et donc, ça faisait un matériel humain que je trouvais beau comme de la poésie. Si vous laissez l'enregistrement de ces séances, mais dans leur entièreté. Alors hélas, pour la fabrication du film, j'ai dû tailler dans le matériel. Et puis c'était un film à tout petit budget, alors on a encore réduit le scénario par rapport au scénario original, etc. Mais ce rapport entre deux hommes, l'un qui était juif hongrois et l'autre qui était catholique Blackfoot, et ces deux types qui se rencontrent, alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer, je trouvais ça sublime, quoi. Et les dialogues, ils étaient là. Et moi, je voulais respecter les vrais dialogues. Vous voyez, c'est de respecter l'enregistrement de la réalité comme la forme la plus pure de la poésie.
Mais comment vous rencontrez ce livre, vous ?
Ben, c'est parce que quand j'étais petit, j'adorais les Indiens. Donc, quand je vois un livre, je regarde parce que vous avez l'édition originale du Devereux. Il y a une photo d'Indien avec ses plumes. Il écrit Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Celui-là, il a été écrit pour moi. Et donc, si vous voulez, Freud plus les Indiens, c'est pour moi.
Quand on écrit sur les Indiens des Plaines ou quand on écrit sur les espions, ça implique de partir tourner à l'étranger. Or, je me souviens d'une déclaration surprenante de votre part dans une interview au magazine Chroniqueur. Les voyages, partir à l'étranger, connaître la France, ça ne m'intéresse pas du tout. Je déteste les vacances et le tourisme, je ne visite pas, je ne prends pas de photos. Se prouver à soi-même qu'on a eu une expérience alors qu'on n'en a eu peut-être aucune, l'expérience, c'est le souvenir d'un livre lu. Je pourrais facilement rester toujours à Paris, je voyage uniquement pour le travail, vous savez, c'est le complexe du provincial. J'ai réussi à arriver à Paris, je ne veux plus en sortir. Pour moi, le son des vacances, c'est quand je suis au Luxembourg, le parc du Luxembourg, à la deuxième buvette, tout d'un coup, vous entendez le sifflet, puis à un moment, il faut partir, et ça, c'est typiquement parisien.
Ouais. Je ne retire pas un mot de cette déclaration.
Vous détestez voyager.
J'aime pas voyager, non, c'est quelque chose qui me fait peur. Je me méfie du tourisme. Je crois pas que c'est parce qu'on part une semaine, 10 jours, qu'on prend des photographies, qu'on connaît un endroit, qu'on connaît quelque chose. Vous voyez, j'étais très fier parce que tout est... Vous voyez, dans le Psychothérapie d'un des Plaines, le personnage de Jimmy Picard, son identité est déguisée par Devereux. Donc, il n'était pas écrit qu'il était Blackfoot. Il a inventé une tribu pour, évidemment, protéger l'intimité de son patient. Et c'est nous, par un travail d'enquête, qui avons retrouvé. Et quand je me retrouve, vous voyez, aux États-Unis, dans la vraie réserve, et que je rencontre les gens, et que je vais à une cérémonie d'initiation, et que, etc. Là, parce que je travaille, parce que ces gens-là sont figurants sur mon film, parce qu'ils nous aident pour les parkings, pour les trucs, ils nous aident pour le logement, etc. Donc on a un échange financier, on a un échange de travail, on a un échange de collaboration. Et ça, c'est une vraie rencontre, parce que c'est dans le cadre du travail. J'ai un souvenir merveilleux, par exemple, quand j'avais dit ça au producteur, là encore, il était désespéré, parce que c'était la fin de 3 souvenirs de ma jeunesse, au Tadjikistan. Et le producteur me dit, mais où est-ce que tu comptes tourner ça ? Je dis, au Tadjikistan. Et il me dit, mais tu as déjà été là-bas? Ben, jamais, évidemment. Pourquoi tu as choisi le Tadjikistan? Parce que poétiquement, c'est super beau, aller au Tadjikistan, c'est classe. Et donc, on va aller là-bas. Donc, on est parti en toute petite équipe. On a passé 5 jours ou 4 jours à improviser des scènes là-bas, au Tadjikistan, et à ramener des fragments. Et mon rapport avec le Tadjikistan est devenu très, très fort, mais parce qu'il y avait du travail. En dehors du travail, je ne sais pas faire. Je suis pas
ça vaut
bon.
Pas mieux. Ça vaut pas mieux qu'un livre lu.
Non. C'est un livre lu. On voyage plus que je, pour moi. Moi, je voyage plus avec un livre qu'avec un voyage.
En vous entendant parler de ces odyssées, notamment au Tadjikistan, je peux pas vous laisser repartir sans qu'on parle d'Ulysse, ce roman monstre, ce roman monde de l'Irlandais James Joyce qui relate les pérégrinations de Leopold Bloom et Stephen Dedalus à travers Dublin lors d'une journée ordinaire. Bloom, Dédalus, ce sont des noms qui reviennent sans cesse dans votre œuvre. À quel âge remonte votre découverte d'Ulysse Joyce?
Assez tard, si je me souviens bien. Est-ce que c'est un livre que j'ai essayé de lire. Je n'y suis pas du tout arrivé. Je suis tombé sur un petit livre qui se trouve très facilement, qui sont les cours de Nabokov, que Nabokov donnait dans une université américaine. Et un des cours est consacré à l'Ulysse de Joyce. Et il fait un truc... Alors, il était très, très positiviste. Nabokov était très réactionnaire. Il avait un côté... c'était pas du tout un structuraliste. C'était vraiment un type plutôt réac, adorablement réac. Et alors, il fait un truc formidable. C'est qu'il nous raconte le début, il nous raconte l'intrigue de chaque chapitre. Voilà. C'est juste ça. Il raconte l'intrigue de chaque chapitre. Dans cet article, dans cette intrigue-là, vous allez voir Buck Mulligan, il monte dans la tour, mais l'autre, il tient le rasoir et puis il est vexé parce que, etc. Et alors, tout d'un coup, ce livre que j'essayais de lire depuis 2-3 ans et auquel je dépassais jamais la page 10, en me servant du Nabokov, j'ai réussi à rentrer dedans. Alors, ça m'a quand même pris 6 mois à venir au bout de ce livre. Et ça m'a vraiment empli, quoi. Ça a été un travail, c'est le complexe de l'autodidacte, vous voyez, comme je n'ai pas fait d'études, voilà, j'ai étudié ce livre. Je l'ai étudié grâce à Nabokov, qui fut mon guide à travers ce livre-là. Et il y a un trait qui me frappe dans le personnage, et souvent les héros masculins, justement, ont un rapport, vous voyez, sont un petit peu les chouchous de leur maman, ou adorent leur maman, ou ont un rapport enchanté avec la figure maternelle. Et c'est un privilège qu'on donne aux héros de cinéma. Et dans l'Ulysse de Joyce, Stephen Dedalus a ce rapport terrible avec sa mère, qui est morte jeune, et il n'a pas voulu s'agenouiller quand sa mère mourait. Et Buck Mulligan se moque de lui, et Dédalus répond d'une manière très arrogante. Il dit « C'est moi qui me moque de ma mère, mais personne d'autre. » Et vous voyez, ce côté, cette impossibilité, cette blessure qui existe entre une figure maternelle et son fils, le héros, est quelque chose qui m'a touché au cœur. Ça m'a touché au cœur parce que je me suis dit « Ça, c'est un héros moderne, différent, singulier. » Et du coup, quand j'ai dû choisir, parce que c'était comme ça que s'ouvrait un film que j'ai, un de mes premiers films, qui était Comment je me suis disputé, c'est ce type, Paul Dédalus, qui a des rapports pourris avec sa mère. Alors quand je vais lui trouver un nom, je l'ai appelé Dédalus en souvenir de ce rapport catastrophique à la mère que le personnage avait. C'est un hommage à cette figure-là.
Vous dites une bonne réplique, c'est une réplique injouable. Vous avez envie d'écrire des répliques plus grandes que la vie pour donner de l'appétit aux acteurs. Alors, il y en a une très belle dans Les Fantômes d'Ismaël. Je voulais te rendre fou, je ne voulais pas te rendre raisonnable. Ouais. Alors, c'était aussi particulièrement frappant dans Trois souvenirs de ma jeunesse où vos héros adolescents s'expriment dans une langue assez soutenue qui tranche avec leur âge. J'en profite pour saluer le travail des deux acteurs, Lou Leroy, Le Collinet et Quentin Dolmer. C'est aussi très net dans Les Fantômes d'Ismaël. Quand Charlotte Gainsbourg annonce à Mathieu Amalric que le personnage de Marion Cotillard est vivant, de même lors d'une confrontation des deux femmes sur une terrasse dans La lumière finissante de Marmoutier, le jeu, le ton, le cas, les décors et les regards au loin, c'est du théâtre. Je trouve qu'il y a des moments flagrants où j'ai l'impression par moments de voir des éclats de Tchekhov dans des scènes comme celle-ci.
Bah, j'ai lu pas mal de théâtre, ça c'est sûr que j'en ai lu pas mal, mais pour apprendre à écrire des dialogues, mais parce que... Voyez-vous, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup le cinéma américain. Et dans le cinéma américain, alors ça dépend quel cinéma américain, ça dépend quelle époque du cinéma américain, mais il y avait cette idée un petit peu, et j'aime pas les dialogues des Prévert, par exemple, tout le cinéma de français de ces années-là m'intéresse pas énormément.
Excessivement poétique.
Oui, tout avec le mais il y a un truc, c'est que profondément, à cause de mon âge, à cause de la génération à laquelle j'appartiens, j'ai eu un refus du réalisme. Voilà. De ce que moi, il me semblait une idéologie de la représentation. C'est-à-dire que quand un personnage dit je veux une tasse de café, tu veux pas qu'on couche, je ne trouve pas qu'ils disent plus la vérité qu'une nonne, c'est ça, tu trouves que je couchais comme une nonne, je trouve pas qu'il y ait plus de vérité. Vous voyez, je trouve. Et dans le cinéma américain, qui est un cinéma qui est nourri de théâtre, mais nourri de partout, tous les grands metteurs en scène américains furent des metteurs en scène de théâtre, et tous n'ont pas arrêté de prendre des pièces, on parlait d'Hitchcock, n'ont pas arrêté de prendre des pièces qui marchaient à Broadway et d'aller à Los Angeles pour les monter et les transformer en films. C'est un théâtre, c'est un cinéma où on essaie de filmer les gens au moment où ils disent une chose exceptionnelle. Et une part de l'idéologie du réalisme, c'est de filmer les moments banals de la vie, les moments où vous dites la phrase que vous avez déjà dit la veille et que vous redirez le lendemain. Et moi, je préfère montrer au cinéma les moments exceptionnels, c'est-à-dire le moment où le personnage se surprend à dire quelque chose qui est plus grand que lui. Et où il se dit, mon Dieu, mais j'ai dit une phrase comme ça, moi. Et d'où elle sort, cette phrase-là? Et voilà, et c'est de capturer ces moments-là qui sont uniques, me semble, plus cinématographique, et c'est ce que vous appelez théâtral, mais j'accepte l'adjectif. Moi, ça me semble plus cinématographique d'attraper ça. Un type, il aime bien, il désire une fille. Il lui pose la main sur la joue. Vous venez de dire un cliché. Et voilà que la fille relève la tête et dit « Pourquoi vous faites ça ?» Et à ce moment-là, le garçon répond « Parce que vous venez de la terre, je crois que j'aime ça. » Et là, c'est exceptionnel. Ça, vous en souvenez, vous la voyez et vous vous souviendrez toute votre vie de cette phrase, de ce moment, de cette main posée sur la joue, de l'ambiguïté, de l'arrogance, du fait que peut-être ça dérangeait la fille, le geste de ce garçon, mais peut-être que de la timidité de ce garçon, vous souvenez tout. Et ça, c'est les deux anglaises et le confinement. Alors, est-ce que c'est théâtral ou est-ce que c'est cinématographique? C'est une seule et même chose, c'est du spectacle. Moi, ça m'intéresse quand ça devient du spectacle. Et je ne crois pas au quotidien. Voilà, c'est quelque chose vraiment auquel profondément je ne crois pas, c'est au quotidien.
Vous écoutez de la musique, je crois, tout le temps quand vous écrivez, tout le temps sur le plateau. Ça vous aide aussi à réinventer les films pendant le montage.
Oui.
Qu'est-ce que vous écoutez de stimulant en ce moment?
En ce moment, j'écoute peu de trucs. J'écoute peu de trucs parce que j'ai lu toutes les critiques dithyrambiques sur le dernier Kendrick Lamar et Damned. Et le disque m'a déçu. Il m'a déçu. J'avais lu des critiques dithyrambiques sur le dernier Wu-Tang Clan. Ils utilisaient du vocodeur dessus. Alors du coup, j'étais quand même de l'autotune. Alors quand même sur deux morceaux. Alors ça m'a quand même fait bizarre. Ça me portait pas. Et donc j'écoute en boucle la bande originale de Jackie, qui est un des films que j'ai préféré l'année dernière, qui est un film qui compte de Pablo Larraín, qui compte beaucoup pour moi, que je tiens vraiment pour un chef-d'œuvre. Et la bande originale est formidable.
Signé Mika Levy, qui avait également signé celle d'Under the Skin de Jonathan Glazer.
Ah, c'était lui qui avait fait Under the Skin, qui est un très très beau film.
C'est une femme.
Ah, c'est une femme.
Oui, c'est une Anglaise qui a une sorte de génie de l'arrangement, tout à fait incroyable.
Et la bande son est merveilleuse. Elle me semble sans influence, pas du tout sous rapport de domination, quoi, mais ça me semble s'inscrire à la suite des bandes annonces des films de Paul Thomas Anderson, de Johnny Greenwood et de compositeurs comme ça. Mais elle a une voix bien à elle. Donc en ce moment, sur ma platine, il y a Jackie et je l'écoute en boucle.
votre sœur, Marie Desplechin, qui est auteur, écrivain, écrivaine, autrice, dit que vos parents parlaient volontiers de leur lecture avec vous, comme des films qu'ils avaient vus. Pour eux, il n'y avait rien de mieux qu'un livre. Est-ce que vous pourriez citer trois souvenirs de lecture de votre jeunesse ?
De lecture de ma jeunesse ? Moi, je suis un lecteur tardif, ma sœur Marie et mes sœurs Marie et Raphaël ont lu bien avant. Bien avant moi. Moi, j'ai lu beaucoup plus tard. Un souvenir de lecture. Le premier, peut-être parce que c'est le premier que j'ai lu, c'était les livres de Jean Rey, puisque j'ai grandi à Roubaix, qui est frontalier avec la Belgique, qui est un écrivain fantastique belge.
Il y a un peu le Edgar Allan Poe belge, avec une carrière incroyablement prolifique, énormément de romans et de nouvelles.
Surtout des nouvelles policières que j'adorais. Qui s'appelait Léa Riddickson, et son œuvre maîtresse qui était Malpertuis, et qui était un livre comme ça sur des figures mythologiques qui reviennent dans une maison en Belgique et que j'avais adoré. Et plus tard, je saurais pas vous dire des titres de livres, ce serait mon deuxième souvenir, si on faisait des concours de lecture, parce que nos parents nous emmenaient, et notre tante nous emmenait à l'équivalent de la FNAC à Lille. Et on avait le droit d'acheter chacun trois livres, donc, ou quatre livres, vous voyez, ou un truc comme ça, ou trois livres chacun. Mais sauf que trois plus trois plus trois, donc on arrivait, vous voyez, plus trois pour les parents. Et donc le but, c'était celui qui arriverait à lire le plus de livres pendant les vacances. Donc une fois de plus, ça, vous voyez, c'est peut-être là d'où s'ancre mon refus du tourisme. C'est qu'en fait, on passait le livre enfermé dans la maison, en essayant de lire enfermé dans la maison, en train d'essayer de lire le plus de pages le plus vite possible. Tolkien, bien sûr. Je me souviens d'un été avoir lu le Seigneur des Anneaux d'une traite, et ça c'était des souvenirs très très forts. Donc voilà, ouais, donc des écrivains plutôt enfantins. Et après ça, ce serait mon troisième souvenir, c'est je me suis dit, je sentais le coup du cinéma arriver, et je me suis dit, je vais pas faire d'études, je sens que je vais faire une étude des écoles professionnelles pour fabriquer du cinéma, donc je vais pas faire d'études, donc il faut que je lise des trucs durs à lire. Alors comme mon père aimait bien les surréalistes, j'ai lu Raymond Roussel, et je crois avoir lu à peu près tout Raymond Roussel, y compris l'Étoile au front et les textes autobiographiques, etc. Et donc je lisais Locus Solus en peinant à chaque page, parce que c'était très très dur.
Adolescent ?
Oui, adolescent, oui, j'ai
chapeau,
lu ça.
Chapeau, c'est très difficile à lire.
Oui, c'est assez austère, hein, c'est assez austère. Je m'étais dit, je ne ferai pas d'études. Je veux faire du cinéma, donc je vais apprendre à brancher un câble, je vais apprendre à charger une caméra, je vais apprendre. Donc mes études, il faudra que je les fasse tout seul. Alors comme ça avait l'air calé et que mon papa adorait ça, du coup, j'avais piqué dans sa bibliothèque les livres de Roussel et je lisais ça. Je regarde mon fils avec anxiété en me disant, mais pourvu qu'il devienne un gros lecteur. Et alors, j'essaye des stratégies. Quoi, vous voulez savoir ma stratégie de la semaine ?
Je serais ravi.
Ma stratégie de la semaine, c'est je me suis dit, j'avais une semaine pas facile à vivre, alors je me suis dit, au lieu de procrastiner, je vais apprendre Zone par cœur, le poème d'Apollinaire. Et donc j'ai commencé donc le poème fait 8 pages, et j'ai commencé à l'apprendre avec lui. Au bout d'un moment, il est arrivé à 2 pages, et je me suis dit, il a trop de travail à l'école, c'est salaud de lui demander. Donc moi, j'ai appris les 8 pages, donc il me les fait réciter, mais lui connaît les 2 premières pages par cœur.
Vous pourriez en citer un fragment ?
N'importe quel fragment.
Je vous en prie.
Bergère au tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin, tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine, ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes, la religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple comme les hangars de port aviation. Ça, il le connaît.
Vous pourriez continuer.
Ah, je le connais jusqu'à la fin, oui. Adieu, adieu, soleil, cou coupé, les 2 fameux vers qu'il a improvisé avec Sandrard. Oui.
Bravo. Le dernier mot de la sublime scène de fin des fantômes d'Ismaël est encore, 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 encore répété à l'infini. Un encore qui suppose encore de l'amour, mais aussi encore des problèmes, encore des excès, encore des dérapages, bref, encore de la vie. Et pour vous, encore, sur quoi vous travaillez en ce moment, Arnaud Desplechin ?
Alors, je travaille sur un film, c'est-à-dire après une telle débauche de fiction, comme celle des fantômes, je suis très très amoureux d'un film, et très très amoureux d'un film qui est The Wrong Man, le faux coupable d'Alfred Hitchcock, et qui est un film unique dans sa carrière où il n'a laissé aucune place à l'imagination, aucune, puisque c'est l'histoire de Fonda, c'est un fait divers, c'est cet homme qui s'appelait Balestrero, qui était contrebassiste de jazz dans un club et qu'on a cru coupable et qui était innocent, et sauf que le système judiciaire s'est emballé et que sa femme en est devenue folle. Voilà. voilà le film d'Hitchcock. Moi, je me suis attelé à un autre fait divers qui s'est passé à Roubaix, okay, que je ne vous raconterai pas, parce que je ne vais pas vous le déflorer. J'essaie de m'attacher, et c'est dans l'esprit de Ginny P, c'est de m'attacher à la poésie du réel, c'est-à-dire de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est absolument vrai, de ne pas rajouter d'imagination, mais que ce soit que par le traitement du jeu de l'acteur et de la mise en scène, de transformer, de donner une grandeur à ces personnages. Et ce sont principalement des personnages féminins qui croisent la vie d'un commissariat à Roubaix. Et c'est plutôt sur la condition féminine aujourd'hui à Roubaix, des conditions de grande pauvreté. Donc c'est des thèmes que j'ai jamais abordés. Donc j'ai un trac à décorner les bouts.
Merci beaucoup, Arnaud Desplechin.
Merci à vous.
L'émission de ce soir a été réalisée par Suivan Clabeau. Merci à lui. On se retrouve demain dès 21h pour de nouvelles aventures littéraires.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.